Alors, avant de... Alors à la fin, il y aura deux, trois interventions qui feront la transition avec le cocktail, mais là, on va ouvrir donc un petit chapitre de 15 minutes. Je vais appeler Denis Bochard et Pierre Connaissin, si vous voulez nous rejoindre. Parce que comme vous, c'est un peu l'actualité, non pas d'opinion internationale, mais de moi-même, permettez-moi de, c'est aujourd'hui délicat de parler de ce qu'on a fait soi-même, mais c'est pas ça. Denis Bochard, donc, comme vous l'avez certainement vu, j'ai publié un livre il y a 15 jours qui s'appelle « La face cachée des Émirats Arabes Unis au Cherche Midi » et j'ai proposé à Pierre Connaissa et Denis Bochard d'en dire quelques mots, de nous proposer leurs réflexions à partir de ce livre. Ce livre, en fait, il part d'une idée toute simple. Au mois de mars dernier, j'ai appris, comme beaucoup, que les Émirats Arabes Unis avaient été placés sur la liste noire des paradis fiscaux par l'Union européenne. Ça m'a beaucoup surpris. Et là, je me suis dit, mais finalement, déjà, l'information, c'est tellement difficile de l'avoir. À part l'Obs qui avait fait une enquête sur le Dubai Papers quelques mois auparavant, je me suis surtout rendu compte que c'est un pays qu'on ne connaît pas. Et finalement, pour expliquer pourquoi ce livre, le meilleur fait à vous proposer, c'est lorsque le président Chirac est décédé, nous lui avons tous rendu hommage. Moi aussi, en publiant un article sur son engagement contre la peine de mort dans le monde, puisque je suis des deux personnes qui ont convaincu Jacques Chirac d'inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution, ce qu'il a fait, ce qu'il a accepté de faire dès qu'on lui a suggéré. Le seul État au monde qui a inauguré une place Jacques Chirac depuis le décès de Jacques Chirac, ce sont les Émirats Arabes Unis. Et pourquoi les Émirats Arabes Unis ont-ils fait cela? Alors, pour répondre à la question, il faut peut-être lire le livre, mais je vous y encourage, d'ailleurs, ceux qui l'acquériront, je le dédicacerai volontiers pendant le cocktail. Mais je vais d'abord donner la parole à Pierre Connaissa. Ou comme vous voulez. Alors, Pierre Connaissa. Alors, Pierre Connaissa est un ancien haut fonctionnaire. Il est l'auteur d'un livre vraiment extraordinaire, je vous invite tous à lire. Docteur Saoud et Mr. Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, chez Robert Laffont. Voilà, très honnêtement, très sincèrement, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté d'être là. Voilà, je vous reconnais dans votre modestement, dans vos écrits et dans le sillon que vous tracez, parce qu'encore une fois, des chercheurs et des sachants qui parlent d'Arabie Saoudite de façon très méthodique, très éclairante, il n'y en a pas. Et donc j'ai trouvé intéressant que vous disiez quelques mots, puisque les Émirats Arabes Unis sont un petit peu le petit frère de l'Arabie Saoudite en bien des points. Et donc merci à vous, et après ce sera M. Bouchard.
Alors vous allez avoir 5 à 7 minutes. Oh. Discrimination. Et vous allez pouvoir vous retenir. Et on est dans le temps.
Je vous remercie de m'avoir pratiquement envoyé plus de. Le double de l'intervenant précédent. J'avais un de mes professeurs qui disait qu'une bonne présentation, c'était une introduction très courte, une conclusion très forte et rien entre les deux. Donc je vais passer directement à la conclusion. Le livre de Michel Taube est un peu le troisième volet d'un triptyque que l'actualité a finalement dicté, qui s'est justement intéressé à trois des pays les plus importants du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le Qatar, ça a été évidemment les bouquins de Chino et Macruno. Bon, moi-même, je me suis surtout intéressé à la diplomatie religieuse en Arabie Saoudite, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et puis, évidemment, maintenant vient cet ouvrage de Michel Taube compléter cette analyse de cette région du monde dans laquelle on a énormément d'intérêt, on a de vieilles relations, et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, la connaissance scientifique manque. J'entends cette connaissance scientifique, c'est-à-dire quelque chose qui soit détaché d'une obligation, soit de réserve, parce que vous êtes diplomate, parce que on ne peut pas obligatoirement toujours dire ce qu'on veut dire de certains pays qui peuvent peut-être avoir des relations privilégiées, notamment avec Paris et avec des gens qui peuvent vous tirer dans le dos ensuite quand vous avez dit des choses qui sont un peu gentilles sur certains de ces partenaires. Alors, le triptyque est intéressant parce que c'est évidemment Chino et Malbruno qui ont ouvert la chose. Sur le Qatar. Le Qatar, c'était le nouveau riche. C'est ceux qui, tout à coup, ont eu beaucoup d'argent avec la découverte du champ gazier qui a fait la fortune de ce pays et qui, tout à coup, a découvert qu'avec beaucoup d'argent, on pouvait avoir une diplomatie d'influence qui était en fait une diplomatie de carnet de chèques, c'est-à-dire une diplomatie dans laquelle il suffisait d'aller à l'ambassade du Qatar, qui expliquait qu'on était un vieil ami du Qatar et qu'on n'avait en tête que les intérêts du Qatar. Et effectivement, Bruno m'a d'ailleurs raconté qu'une fois, Rachida Dati avait demandé à ce qu'on puisse lui payer un voyage pour faire une réunion de famille là-bas dans le Golfe. Et elle avait demandé quelque chose comme 300 000 euros. Je ne sais pas s'il les a eu, mais enfin, en tout cas, ça vous explique la nature de la démarche. Donc le travail qu'on fait chez Donald Brunet, qui est essentiel, ça consistait à tracer l'argent. Ça n'exclut pas que le Qatar est une diplomatie dans le soutien des frères musulmans, mais enfin, c'est le dernier intervenant. Moi-même, je me suis interrogé bêtement pour me dire, tiens, c'est étrange que de ce pays qui a la forme de l'islam la plus radicale soit celui dont on ne parle jamais quand on a 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris pour des attentats salafistes. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant que cette diplomatie religieuse d'un pays qui ressemble étrangement à Daesh n'ait fait l'objet d'aucune recherche. Et là, on est dans un problème important, encore une fois, c'est que... J'entends, oui, l'Arabie Saoudite, des fois que vous ayez des doutes sur le qualificatif du pays dont je parlais, c'est-à-dire que ce pays, effectivement, fait l'objet d'une politique de communication sur laquelle je viens de terminer un rapport, qui consiste à ne pas parler d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on évite de parler, d'entrer dans le cœur du sujet? Donc, c'est une technique assez simple, ça je vais l'expliquer dans d'autres circonstances, c'est s'adresser aux hommes politiques, aux hommes d'affaires et puis aux élites de la communauté musulmane. Et donc, le livre de Michel Taub vient compléter ce triptyque avec, effectivement, ce pays avec lequel on avait les relations les plus sympathiques, finalement, parce que les Émirats avaient réussi à garder cette image d'un pays avec lequel on pouvait discuter, dans lequel il y avait une tolérance religieuse, dans laquelle on n'avait pas, si vous voulez, ces espèces d'excès qu'on a constaté dans d'autres pays. Et c'est vrai que dans ce sens-là, ça vient nous ramener le regard sur quand même cette région du monde, qui est quand même aujourd'hui une espèce de baril de poudre, et donc il est important d'avoir une vision la plus réaliste possible de ces trois pays, avec effectivement une certaine distance qui permettra au jour aux politiques, notamment si Trump décide de faire la guerre à l'Iran, de savoir quelle politique on aura. Bon, quand vous avez un baril explosif comme ça avec un Trump, dont je ne sais pas si c'est un bipolaire ou si c'est un trouble de la personnalité, mais enfin, avec un type dont on ne sait absolument pas ce qu'il peut décider demain. J'hésite entre le bipolaire, parce que le bipolaire, quand même, le copain médecin m'a dit que c'était des phases longues, des dépressions et d'excitation, on dit que le trouble de la personnalité, c'est du jour au lendemain. Et lui, il m'a dit, non, lui, c'est effectivement un trouble de la personnalité. Et donc, on est sur une situation dans laquelle il faut effectivement que, en tant qu'Européens, et en français en particulier, on ait vis-à-vis de ces pays quelque chose qui soit dépoussiéré de tout ce qu'on va pouvoir raconter sur la réalité de l'action de ces pays. Traquer ce travail, c'est extrêmement difficile parce que vous avez quand même dans le champ politique français des gens qui sont de fervents soutiens, si vous voulez, de ces pays, chacun avec un argumentaire différent. Moi, j'ai eu droit à une critique d'un collaborateur du CAP, vous savez, du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, sur mon bouquin, expliquant qu'en fait, ce que je visais, c'était l'islam. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, le pire service qu'on pouvait rendre à l'islam, c'était justement de défendre l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, on a encore aujourd'hui à l'intérieur du système des gens qui vous disent « Vous n'avez pas compris que ce pays, en fait, fondamentalement, comment dire, répand la démocratie dans le monde. » Et puis, donc, vous allez avoir, Michel, je vous assure tout de suite, quelques ennemis qui vont expliquer que vous n'y connaissez rien, que vous ne parlez pas l'arabe, que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, de toute façon, si vous y êtes allé, vous êtes resté dans des grands hôtels, etc. Donc il y a une mécanique, si vous voulez, qui, encore une fois, rend ce travail extrêmement utile. Et là, je tiens à la saluer. Alors, j'en termine, si vous voulez, parce que je ne vais pas consommer tout mon temps. C'est une zone des tempêtes. C'est une zone des tempêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à cette situation étonnante. Le chef d'orchestre qui est Trump aurait très bien décidé que la guerre doit se faire avec l'Iran. Vous avez entendu son discours aux Nations Unies, où il a expliqué que c'était l'Iran qui manipulait tout le terrorisme international. Ça fait partie de ces grandes déclarations politiques qui sont très étonnantes, si vous voulez, quand on les compare avec les victimes qu'on a subies tout seul. Il y a vraiment un problème stratégique aujourd'hui pour l'Europe, c'est comment est-ce qu'on va se comporter vis-à-vis de cette région, dans laquelle on a des intérêts, il n'est pas question de les négliger, mais vis-à-vis d'une situation stratégique qui est aujourd'hui orchestrée par quelqu'un qui a une intention assez malfaisante, si vous voulez, pour la stabilité du monde. Donc voilà, j'arrête là, parce qu'effectivement, je vous conseille de lire le bouquin de Michel, parce que ça viendra compléter, s'il vous plaît, évidemment après avoir acheté le mien, de vos connaissances de la région. Je vous remercie.
Merci pour l'évocation du triptyque. Je ne sais pas si je mérite, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a un très haut pays sur lequel il est bon de connaître. Et je voulais. Exactement. Merci. Alors, on dit souvent que la France a une politique arabe importante et que c'est peut-être d'avoir baissé la garde, d'ailleurs, de ce côté-là, ces dernières années, qu'on a eu quelques déboires. Mais quand on dit avoir une politique arabe, ça repose souvent. Sur le travail de chercheurs, mais aussi de grands diplomates. Et s'il y en a un qui connaît bien le monde arabe, c'est Denis Bochard. Donc je voudrais vraiment vous remercier d'être là. Vous êtes ancien ambassadeur de France dans de nombreux pays. Vous avez présidé l'Institut du monde arabe. Vous avez été directeur du Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Vous êtes consultant auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui est le think tank français, le seul qui est classé dans les 100 meilleurs think tanks du monde. Et donc, voilà, il y aurait d'autres choses à dire, mais je pense que ça suffit à expliquer l'importance de votre présence ce soir. Et je vous remercie d'avoir accepté de bien vouloir dire quelques mots à partir du livre sur les relations entre la France et les Émirats Arabes Unis pour mieux la comprendre. Et encore une fois, merci pour votre présence. Merci. 5-7 minutes. Hein.
Oui, même point. Mais merci Michel pour ce traitement de faveur. Oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Michel et je l'ai. Et manifestement, c'est un livre qui arrive à son heure, parce que d'abord, il complète, comme l'a dit Pierre, le livre déjà existant, et parce qu'il met l'éclairage sur un pays qui n'était pas connu, très peu connu, sauf dans la littérature anglo-saxonne. Peut-être pour une raison simple, c'est que la France n'a découvert cette région du monde que depuis quelques décennies. Il faut bien voir que le golfe dit persique, et que les Arabes appellent arabique, était une chasse gardée des Britanniques depuis la fin du XIXe siècle, et que tous ces petits pays étaient sous protection, entre guillemets, britannique, jusque dans les années 70, ou les grandes années 70, que ces pays ont eu leur indépendance. Donc je crois que c'est important, effectivement, de connaître ces pays venus de nulle part, en quelque sorte. Ces petits émirats dont certains étaient nomades, d'autres sédentaires, et qui ne vivaient que de contrebande, certains en vivent encore maintenant, je vous parlerai, et que d'huile perlière. Comme l'a raconté Albert Long, qui avait fait un séjour dans cette région dans les années 20. Alors je ferai un éloge d'autant plus vite que j'ai aucun livre à proposer à votre attention. Mais c'est une région que j'ai abordée il y a très longtemps, quand Abu Dhabi n'était encore qu'un tas de sable avec un château traditionnel, en sable lui-même, en boue séchée. C'était juste au début, à la fin des années 60, où j'avais pu rencontrer que le political agent anglais, un diplomate très sympathique de 35 ans, qui était le patron des émirs n'existait pas. Donc, ce sont des pays qui, maintenant, sont passés de des huiles perlières à des puissances régionales pour certaines d'entre elles. Et quand on parle des Émirats Arabes Unis, il faut bien voir que parmi les sept pays qui représentent qui constituent la fédération, on en avait deux importants, dans des genres différents. Abu Dhabi, puissance pétrolière très importante, très riche, et Dubaï, centre de tous les commerces, pour ne pas dire de tous les trafics. Au fond, quels sont les objectifs de ces émirs? C'est-à-dire, d'hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes, d'hommes qui qui ont un pouvoir de nature familiale, pour ne pas dire féodale. Et ce que je vais dire d'Abu Dhabi est valable pour tous les émirats du Koweït jusqu'au sultanat d'Oman. La première préoccupation de ces pays, c'est d'avoir une assurance sur la vie. C'est de survivre. De survivre parce que ce qu'ils représentent des États avec quelques milliers de personnes autochtones, il faut bien voir que Abu Dhabi, c'était 50 000 habitants dans les années, à la fin des années 60, c'est maintenant 200 000, c'est la population du 15e arrondissement de Paris. Donc il y a un problème de survie vis-à-vis de l'Iran d'abord, qui est effectivement le grand voisin du Nord, 83 millions d'habitants, et c'était déjà un problème du temps du Shah, ce n'est pas nouveau. L'autre grand voisin, c'est l'Arabie Saoudite, qui effectivement a tenté à plusieurs reprises de prendre des morceaux de ses voisins, avec ses émirs ayant finalement peu d'hommes à leur disposition pour résister au grand Yen Sioux. Mais c'est également d'assurer la survie financière, je pense à Abu Dhabi en particulier, car ces pays sont tout à fait conscients que le pétrole aura une fin un jour ou l'autre. Et donc Abu Dhabi a pratiqué une politique systématique de création et de renforcement d'un fonds souverain, qui est d'ailleurs le plus important au monde, qui représente une somme de 700 milliards de dollars. L'autre objectif d'Abu Dhabi, c'est de jouer dans la cour des grands. Et ils en ont trouvé l'occasion lorsque le printemps arabe s'est déclenché. Et immédiatement, ils sont allés, je dirais, en tête de la Sainte Ligue, de la Ligue contre-révolutionnaire, contre les princes arabes, qui a regroupé essentiellement l'Arabie saoudite. Et au Moyen-Orient, essentiellement l'Arabie saoudite. Et donc, cette hostilité au printemps arabe était d'autant plus forte que l'ennemi héritaire, le Qatar, encourager le printemps arabe, dans la mesure où il trouvait des affinités, puisque ce printemps arabe a été confisqué dans un certain nombre de pays, en particulier en Égypte, mais au départ en Tunisie, par les frères musulmans, avaient de très bons réseaux et qui ont toujours de très bons réseaux au Qatar. Donc ils ont été à la tête, de la contre-révolution avec un certain succès, en apportant des financements considérables, notamment à l'Égypte, notamment au nouveau gouvernement tunisien. Et ils ont permis en particulier à l'Égypte de ne pas tomber en faillite financière. Deuxième question qui me paraît importante de souligner, c'est d'ailleurs vous l'avez évoqué, pourquoi y a-t-il une place Jacques Chirac à Abu Dhabi? Nous avons établi, effectivement la France a établi depuis les années, depuis le début des années 70, des relations fortes avec un certain nombre de pays du Golfe. Essentiellement, effectivement, le Qatar d'un côté et les Émirats de l'autre, ce qui est parfois un peu sportif compte tenu de leur antipathie réciproque. Pour ces Émirats, notamment pour Abu Dhabi, il y a le souci de multiplier, les assureurs, sur la vie, de ne pas compter uniquement sur les États-Unis. Surtout depuis que le président Trump, lorsqu'il a fait son premier séjour au Moyen-Orient, à Riyad, en mai 2017, a dit très clairement dans son discours, c'est à vous d'assurer votre sécurité, ce n'est pas aux États-Unis à venir vous porter secours systématiquement. Et je crois que la leçon a été bien perçue, ou plutôt mal perçue, mais je pense que tous ces émirs, et sans parler du roi d'Arabie Saoudite, sont conscients, je dirais, du fait de la faiblesse de la crédibilité américaine au cas où ils auraient des problèmes. Et donc, effectivement, ces pays se sont tournés vers la France, mais également vers d'autres pays. Le président Poutine vient de passer un bref séjour à Abu Dhabi, qui n'était pas tout à fait innocent. Et de notre côté, du côté français, dès que les protectorats britanniques ont été levés, il y a eu, c'était l'époque du président Pompidou et de Michel Jobert, une mise en place systématique d'ambassades partout, avec l'envoi d'un diplomate très chevronné, parfait arabisant, qui s'appelait Paul Carton. Et donc on a mis en place des réseaux d'influence extrêmement rapides. Et très vite, on s'est aperçu qu'effectivement, les deux principaux ancrages étaient les Émirats et le Qatar, qui sont deux pays effectivement dotés de ressources financières importantes. Et la coopération avec ces pays a pris des formes très, très diverses, avec des domaines aussi bien politiques, économiques, voire culturels. Sur le plan politique, effectivement, Jacques Chirac a établi des relations personnelles très fortes avec le cher Zayed, qui était à ce moment-là l'émir, et actuellement le président Macron a d'excellentes relations avec Mohamed Ben Zayed, d'INBZ, qui est en fait le véritable patron de l'émirat, même s'il n'est que prince héritier, parce que l'émir lui-même est en état de santé déliquescent. Cette coopération a pris également, est intervenue dans des domaines sensibles, notamment l'armement, avec des contrats très importants, un contrat Charles Leclerc, le professeur Bichard, dès 1993, donc vous voyez, c'est ancien, avec un accord de défense qui théoriquement nous obligerait à venir au secours des Émirats si celui-ci était attaqué, et avec la création, d'ailleurs à la demande des Émirats, d'une base qui a été très utile pendant toute la période de la lutte contre Daesh. Voilà effectivement ce qu'on peut dire. Ceci étant, il est clair qu'Abu Dhabi, comme Dubaï, comme les autres, comme le Koweït, sont des pays fragiles, d'une part parce que ce sont des régimes féodaux qui appartiennent à un autre temps. Tous les leviers du pouvoir sont entre les mains de membres de la famille, et ils sont également fragiles parce que le grand frère américain, manifestement, n'est plus prêt à s'engager pour assurer leur sécurité. Merci.
Merci beaucoup, messieurs Conessa et Bochard. Je vous invite à, encore une fois, lire le livre. Je signerai volontiers tout à l'heure. Ainsi que celui de M. Conessa s'il l'a avec lui, mais peut-être pas. Et, enfin bref, ceux qui achèteront le livre, vous engagez à acheter le livre de M. Conessa également. Et le triptyque, pour le troisième, on verra plus tard. Donc, merci à tous les deux.